Bézat Hachem, nous allons continuer dans sur notre lancée. Notre sujet, c'est la Teshuvah. Et nous sommes partis du Tehilim 145, où David HaMelech nous dit qu'il faut ouvrir les mains, Potech et Yadecha, ou Masbia Lechol Chai Ratzon. Je voudrais vous rajouter aujourd'hui quelques éléments qui peut-être manquaient dans le cours précédent. Donc regardez dans la deuxième ligne, Betargum Yonatan Katuv, donc le Targum Yonatan qui en réalité traduit mais explique en même temps la Torah, Mefaresh Poteach et Yadecha, il nous explique qu'est-ce que ça veut dire Poteach et Yadecha, Maftach Kivraya, il ouvre le tombeau, comme s'il y avait un tombeau qui était fermé, et donc il y a une force qui ouvre ces tombeaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Dechen ktav meforash bepitri et kivrotechem. Il ramène un verset qui dit que un jour Akadosh Baruch Hu ouvrira les tombeaux d'Israël. Qu'est-ce que c'est que l'ouverture des tombeaux d'Israël? Où est-ce que ce verset est écrit? Dans Yechezkel. Et à quoi fait référence Yechezkel? À l'exil. C'est-à-dire que l'exil, lorsqu'Israël se trouve en exil, c'est comme s'il était mort. La nation est dans un état de mort. Et donc, ouvrir les tombeaux de l'exil pour faire sortir le peuple, le faire renaître et le faire revenir sur sa terre. Et donc, il y a ici une comparaison à la mort, à l'ouverture des deux Yud, c'est-à-dire Maftach Akarata, c'est comme l'ouverture, dit le Rabbi Yonatan Ben Uziel, d'une femme qui est stérile. Une femme qui ne peut pas donner la vie. Il y a ici une ouverture de Yud. À partir de ce moment-là, elle peut donner la vie. Dechen katav meforash vaizkor Elohim et Rachel. Exactement la même chose. Il ramène un autre verset où Akadosh Baruch Hu s'est souvenu de Rachel, qui était stérile, bien entendu, et qui après pouvait faire venir des enfants au monde. Ça veut dire que dans tous les cas de figure, le kever, le tombeau, étant donné que la Gemara nous dit aussi que la partie par laquelle le bébé sort du corps de la mère, s'appelle aussi dans le langage hébraïque le tombeau. C'est comme si le bébé était mort à l'intérieur, même s'il est vivant, car on va compter véritablement sa vie seulement à partir du moment où le bébé est sorti du ventre. C'est pour ça que vos jours sont comptés à partir du jour de votre naissance, alors que vous étiez déjà vivant à l'intérieur du ventre. Donc on ne dit pas qu'un enfant a une semaine plus 9 mois. Il a une semaine depuis le moment de sa naissance. Ça veut dire que le peuple d'Israël commence à vivre seulement à partir du moment de sa naissance, à partir du moment où Akadosh Baruch Hu ouvre ses tombes de l'exil. Le Malbim, et avant lui Rashi, Masbia lechol chai ratzon, regardez, en troisième degré, Kedei parnasato, Akadosh Baruch Hu ouvre les mains pour donner de la parnasa, Masbia et tuvo, et il va générer sa bonté, et il va donner sa volonté, il va nous faire comprendre quelle est sa volonté et en même temps sa bénédiction, c'est-à-dire le lien que nous devons avoir avec lui. Donc la même chose, Rashi nous dit qu'il y a ici une certaine ouverture pour pouvoir donner la vie. Donc je reviens à nos fameux Yud, l'ouverture des deux Yud. Le premier Yud qui était le nom de Dieu, le tétragramme, Yud Kevavke. Le deuxième Yud qui est à la fin du nom Adon. Et entre ces deux Yud, il y a toute une vie. Une vie qui est divisée en 6 parties, puisqu'il y a 6 lettres qui restent au milieu entre les deux Yud. Et c'est dans ces 6 lettres que nous devons nous agir, que nous devons nous développer pour que le Yud initial se retrouve à l'extrémité opposée, c'est-à-dire dans l'action, dans notre vie. Est-ce que les choses sont claires? Ok. Hamalbim, le Malbim, qui est un autre commentateur, explique Poteach et Yadecha. La même chose, on va repartir sur Poteach et Yadecha, l'ouverture des mains, que les sages nous ont dit de ne pas lire Yadecha, mais Yudecha, je vous rappelle. Okay. Qui dit ça d'ailleurs, qu'il ne faut pas lire Yadecha, mais Yudecha? C'est marqué où? Non, c'est pas dans la Gemara, c'est dans les Tikkunei HaZohar. C'est-à-dire Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav HaShalom, dans le Zohar, dans une partie du Zohar qui s'appelle Tikkunim. Là-bas, c'est écrit qu'il ne faut pas lire Poteach et Yadecha, ouvre tes mains, mais il faut comprendre Poteach et Yudecha, celui qui ouvre les Yud, celui qui arrive à séparer en fait le potentiel du manifesté. Et les deux degrés sont équivalents à deux lettres Yud. Potentiel égale Yud, fin de l'action égale aussi Yud. La différence entre les deux, bien entendu, c'est que le potentiel est encore potentiel. Et le deuxième Yud, c'est déjà le développement de ce potentiel. J'ai pris ce potentiel, je l'ai développé, je l'ai ouvert, et j'en ai fait, en réalité, quelque chose qui, dans la somme globale, à la fin du processus, ressemble tout à fait à ce que j'avais au début, ce qui équivaut à dire que je n'ai rien perdu en route. Donc le Malbim, Poteach et Yadecha, Sheu Mashekatav, Tiftach et Yadecha Isbe'un Tov. Lorsque tu arrives à faire cette ouverture des deux mains ou des deux Yud, peu importe, c'est l'occasion pour générer la bonté, pour générer la vie entre les deux Yud. C'est comme si je créais en fait un réceptacle en ouvrant ces deux Yud pour recevoir la bonté divine. Haratzon poteach et yadecha umasbia lechol chai. Et là, le Malbim rajoute quelque chose de nouveau qu'on n'avait peut-être pas compris jusque-là. Il donne une nouveauté. Il nous dit qui est-ce qui ouvre les mains? Non, là, il donne quelque chose d'autre. Haratzon, la volonté. C'est-à-dire que. Nachon, tout à fait. Mais est-ce que tu l'entends? C'est ça le problème. Si tu entends la volonté de Dieu, alors ta volonté fait en sorte de devenir en fait un réceptacle. Je vais essayer d'approfondir avant d'avancer, avec votre permission. Notre âme, qu'est-ce que c'est en réalité? Difficile de définir une âme. Alors les sages pour nous aider, ils ne vont pas définir l'âme, c'est quelque chose, c'est du vent, c'est un souffle, c'est un esprit, pas du tout. Ils vont nous dire en réalité, c'est la quantité de volonté que tu as en toi. Autrement dit, la grandeur de mon âme équivaut à la grandeur de mon vouloir. Plus un homme veut, plus son réceptacle devient en réalité beaucoup plus grand, beaucoup plus capable de recevoir la bonté divine. Donc tout dépend de la volonté de ce qu'on veut. Quand tu veux quelque chose, le vouloir de cette chose-là, c'est le réceptacle, c'est ton keli dans lequel tu recevras la bénédiction. Ça veut dire, si tu veux beaucoup, eh bien tu seras un grand canal de réception. Si tu veux un peu, tu seras un petit canal, et donc tu recevras beaucoup moins.
C'est à nous de décider de notre volonté, de notre âme, parce que c'est Hachem qui décide, non?
Non, Hachem il décide, il a déjà décidé, mais il te laisse le libre arbitre de savoir à quel degré tu bases ton désir. C'est-à-dire, si tu voulais te lever ce matin pour aller à la tefila, tu te serais levé. Mais si tu as laissé dans les 100% de vouloir 1% de peut-être je ne vais pas me lever parce que je suis un petit peu fatigué, qui a gagné? Le 1%. C'est-à-dire que quand tu veux quelque chose véritablement, tu le fais. Et tu l'as. Donc en réalité, le désir de l'homme, la quantité ou la qualité de notre désir, c'est celle qui va gérer ce que nous allons avoir dans notre vie. Quelque chose que tu as vraiment voulu dans ta vie, généralement tu arrives à l'accéder à avoir. Ken? Ken? Encore une fois, quand tu as une véritable volonté, tu peux même surpasser et dépasser les moyens. C'est-à-dire tu vas te donner les moyens de réussir à faire la chose. Ken? Si vraiment tu veux. D'accord? Si vraiment tu veux la chose, ça ouvre, le Zohar nous explique que le mot ratson, qui veut dire volonté, ce sont les mêmes lettres, quand vous les tournez, du mot sinor, qui veut dire canal. C'est-à-dire, quand tu deviens ratson, quand tu veux vraiment, tu deviens un canal pour que la chose circule à travers toi.
C'est clair? Ok. Sur la définition de âme, si ma définition est comme quantité de volonté qu'on a en soi, alors un bébé, il n'a pas de volonté, il a une âme.
Un bébé a une volonté au niveau de son potentiel. Il n'a pas encore développé ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas, mais il a en lui. Alors, la volonté, elle est à 2 degrés. Elle est donnée par Akadosh Baruch Hu. C'est le ratson d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il veut que je devienne dans ma vie. Donc, il a placé en moi une carte magnétique avec tout ce qu'il veut que je devienne dans ma vie. Et moi, maintenant, je rentre en jeu. C'est la deuxième phase. Combien de ce que Dieu a placé en moi, je veux développer. Et donc, je vais me donner les moyens de développer. Alors, il y a toujours un degré divin et un degré du choix humain de combien développer. En réalité, c'est le seul choix que nous ayons. Nous n'avons pas le choix d'être ou de ne pas être. Nous avons le choix de réaliser ce qui nous a été donné ou étouffer ce qui nous a été donné. On est d'accord? Ok. Ok, mais ces paramètres qui te bloquent, qui t'empêchent de vouloir ou de ne pas vouloir, ce sont des paramètres que tu dois travailler pour te permettre d'arriver à la vraie volonté.
Ça va, par exemple, je veux être gymnaste.
Tu veux être quoi?
Gymnaste, pardon. Je suis 2m10, je sais pas.
Encore une fois, la volonté, c'est pas la volonté de ce que toi tu veux. La volonté, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a prévu que tu sois. D'accord ? Un oiseau ne peut pas vouloir être un chat. Pourquoi ? Parce que Dieu a placé en lui une qualité de créature qui vole et qui ressemble à l'oiseau que tu vois. Chez les animaux, cette volonté divine est active. Donc, moralité, l'oiseau ne pourra pas faire autrement que d'être un oiseau. Chez l'homme, c'est différent. Dieu a placé en nous la même chose, une qualité d'homme. Très précise en ce qui te concerne et en ce qui me concerne. Mais maintenant, il me demande de mettre en marche tout un système durant toute ma vie pour comprendre qui je suis, ce que Dieu a placé en moi pour pouvoir le dévoiler et le sortir. Donc je ne vais pas rêver des choses qui ne sont pas dans ma nature. Ça ne sert à rien. Je ne parle pas de ça. Je dois rêver d'être ce que je suis. Et comment je vais rêver? Rêver, ça ne dépend pas de moi, ça vient de lui. Parce que le rêve, c'est aussi quelque chose qui vient d'en haut. Donc je vais écouter mes rêves, je vais écouter mes raves, c'est un jeu de mots, mes rêves et mes raves, okay, qui vont essayer durant l'étude de m'aider à définir qui je suis dans mon identité la plus vraie pour être ce que je suis véritablement, qui je suis, et pas une imitation de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Donc plus je colle à mon identité, plus je deviens moi-même, plus je dévoile moi-même. Je n'ai rien d'autre à dévoiler que moi-même. Donc je repars vers moi. C'est pour ça qu'on traduit le terme de Teshuva par retour. Retour sous-entend que j'étais déjà là-bas. Sinon c'est aller vers. C'est pas retour. Retour, Teshuva, veut dire que je reviens vers mon identité la plus vraie. Pourquoi faire? Mais pour l'ouvrir. Pour vivre selon elle. Okay. Exactement. Si tu arrives à prier dans le vrai sens du mot prière, tu te relis, parce que le mot prière en français, il veut dire prière, mais en hébreu, tfila veut dire lien. En hébreu, il y a un verbe, lilpot, qui veut dire attaché. Donc quand tu pries, en réalité, tu t'attaches à la volonté divine, qui veut, par exemple, que l'homme soit en bonne santé. Donc toi, tu t'associes à ce désir divin que le monde soit en bonne santé, et toi tu demandes la santé pour le monde. C'est pas que tu inventes une demande, tu t'associes à une demande qui existe déjà. Quel? Il y a fait mode, c'est exactement ça. Fais en sorte que ta volonté, ton ratson, devienne en réalité ce qu'il a prévu que tu sois. C'est-à-dire son ratson. Et si les deux ratsonotes, les deux volontés, la tienne et la sienne, entre guillemets, colle, elles sont identiques, et bien t'as gagné, tu as trouvé exactement ce que tu dois devenir, maintenant tu vas commencer à travailler. Et tout ce qui va te gêner, comme tu m'as dit, eh bien tout simplement il faut l'écarter de ta vie. Il faut le sortir. Ce sont des choses qui viennent gêner mon devenir. Donc il va falloir que je m'éloigne de cette chose-là et que je me fabrique une structure de vie qui me permette de réaliser mon être. Okay.
Si quelqu'un refuse de faire ça toute sa vie.
Alors c'est son libre arbitre. Si quelqu'un refuse de faire ça toute sa vie, eh bien il a bloqué, c'est son libre arbitre.
Ça veut dire,
il a empêché que le degré qui devait arriver au monde et qui devait passer spécialement par lui, eh bien ce degré-là manque dans le monde. Alors Akadosh Baruch Hu va compléter ce manque par autre chose que je ne vais pas rentrer maintenant. Okay? Ou par une réincarnation de cette même personne dans un autre corps, ou par un ami à lui qui a le même degré d'âme, et donc Akadosh Baruch Hu va faire passer tout le flux chez son ami, donc lui va rester vide de ce flux-là, parce que lui a choisi de fermer la porte au dévoilement. Mais on ne peut jamais fermer la porte à quoi ? À l'essence, à la structure de base que Dieu a implantée à l'intérieur de nous. Ça, c'est nous. Ce qu'on peut bloquer, c'est juste l'expression de ça, faire sortir ça, le faire vivre. Mais à l'intérieur de moi, je suis toujours moi. Ça veut dire qu'un Israël, un homme qui est né juif, restera toute sa vie Israël, avec la structure d'un Israël, même si jamais dans sa vie il aura vécu selon cette structure. Alors qu'est-ce qui se passe? En réalité, il a vécu comme un rachat, alors que sa nature profonde est Israël. Et il sera jugé comme Israël, qui a vécu comme un rachat. Donc il sera en réalité un Israël fauteur. Mais c'est un Israël. Israël afalpi shechata, Israël hu, dit la Gemara. Un Israël, même s'il faute, il reste Israël, mais fauteur. Qu'est-ce que c'est fauter? C'est rater les retrouvailles avec ce que tu étais au départ. Tu as en réalité fait quelque chose hors sujet. Vous avez déjà rendu des feuilles où on vous a marqué hors sujet? Mais c'est exactement ça. Tu peux vivre toute ta vie hors sujet. Et qui est le sujet? Toi-même. Donc tu as vécu une vie tout entière, tu as gaspillé une vie à vivre plein de choses qui ne sont pas toi. Parce que le sujet principal, c'est toi, tu ne l'as pas trouvé. Okay.
Dans ce cas, en prenant pas des positions de l'âme, comment vous définissez l'âme dans une personne qui ne peut pas vivre? Est-ce que ça mettait pour l'âme?
C'est un autre degré de vouloir. C'est-à-dire que l'âme d'un non-juif, c'est aussi un désir, une volonté, mais d'un autre degré, d'une autre structure de volonté.
Vous avez dit qu'il y a deux degrés dans la volonté, il y a la volonté personnelle.
Nahon, il y a toujours deux degrés, mais d'une autre structure. Par exemple, si Akadosh Baruch Hu a créé un homme qui est né au Japon, okay, un petit japonais, est-ce que un jour on va vouloir lui dire « change ta structure japonaise, deviens quelque chose d'autre » Non. On n'a pas le droit de le faire. D'ailleurs, le juif, le judaïsme, jamais ne va essayer de convaincre une autre religion ou une autre structure de devenir juif. Ce n'est pas notre rôle. On ne va pas chercher à ramener chez nous des juifs. Si quelqu'un veut se convertir, il vient de lui-même et alors on voit s'il fait partie de cette structure. Mais on ne va pas aller changer la structure de quelqu'un. Sous-entendu, on respecte la structure de chaque être. Et donc je vais respecter sa structure de japonais. Alors, qu'est-ce qu'il devrait être, ce japonais? Le meilleur japonais qu'il puisse être. C'est sa structure, c'est ce qu'il doit être. Donc, on va développer son côté japonais avec toutes les données que Dieu a implantées en lui pour fabriquer des MP4. Ken? Ou autre chose? Ken? On continue? Il y a encore une question. Ken?
Quelque part, si on fait la racine de la chair, je me
tiens très simple. Si tu fais en sorte que ton ratson à toi devienne celui d'Hachem, exactement, tu aides à Kadosh Baruch Hu, tu travailles avec lui, en collaboration avec Dieu, et tous les deux, vous allez en réalité dans le même sens. Rappelez-vous l'exemple que j'ai donné la fois dernière, du grand fleuve qui coule, et tu ne vas pas prendre une petite barque pour essayer de flotter à contresens. Okay, tu vas te casser la figure, toi et toute ta structure. Donc, un Kadosh Baruch Hu a déjà une structure existante dans le monde. Il a déjà un but et toi, tu ne fais que t'associer au but principal d'Akadosh Baruch Hu. Et tous les deux, maintenant, vous êtes dans le même sens. Alors, tu obtiens la notion de tzaddik. Okay.
Donc, quand Dieu nous fait venir un rêve, en fait,
okay. Okay. Si tu sais comprendre le rêve, si tu es au niveau de comprendre les rêves, je parle d'un vrai rêve, c'est-à-dire quand tu vas dormir, ok? Okay? Pas un rêve où tu te dis, ah, j'ai envie de... Un rêve en sommeil, c'est-à-dire que ton corps est dans un état de sommeil et tu commences à rêver. Généralement, dans cette structure de rêve, il faut que tu ailles chez quelqu'un qui connaît le sens des rêves. Il va t'expliquer ton rêve et là, il y a une donnée, il y a peut-être un message du divin. Okay? Il faut savoir parce qu'il y a des morceaux du rêve, des parties du rêve qui ne font pas partie du rêve et il faut savoir les enlever. Et ça, c'est seulement un spécialiste qui peut faire ça, un grand rave. Okay? Slicha? Okay? Slicha? Il devient tzaddik. Nachon. Nachon. Ça veut dire qu'en réalité, ils ont joué le même rôle qu'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu aussi s'appelle Tzadik. Tzadik ata bechol ma'asav. Tzadik hu bechol ma'asav. Vechassid. Donc Akadosh Baruch Hu nikra Tzadik. Et si un homme est appelé Tzadik, il a le même surnom, entre guillemets, qu'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il fait la justice. Il est juste, selon lui. Tzadik vient du mot Tzodek, Tzedek. Il est juste, il est collé à lui, à sa structure réelle. Il ne ment pas, il ne triche pas, il n'essaye pas d'embrouiller ce qu'il est, à se mentir lui-même. Donc, moralité, vous pouvez vous mentir toute la journée en vous regardant dans la glace. Vous savez que ce n'est pas votre vie que vous êtes en train de vivre. Et malgré tout, vous continuez. Jusqu'au jour où vous vous dites, mais attends, je suis en train de me mentir, à quoi ça sert? Je suis hors sujet. Okay.
Même si toi, tu dis de faire ça, et qu'on soit dans une honte, on est en train de faire ce que Dieu nous demande, on sait qu'il nous demande ça, on soit dans une honte, si c'est pas ça que je suis, qu'on sort à toi. Okay.
Encore une fois, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est déjà donnée. On ne doit pas la chercher. Dieu nous a donné déjà la Torah. Donc on sait ce qu'il veut. À partir du moment où on sait ce qu'il veut, eh bien toi tu dois savoir dans quel moment tu es dans ta vie. Il y a des moments où Akadosh Baruch Hu veut que tu étudies la Torah, mais il y a certainement un moment où Akadosh Baruch Hu veut que tu sortes de la yeshiva pour aller bosser. C'est sûr. Je peux te le signer. C'est-à-dire, il y a un jour où la bracha, c'est précisément de sortir de la yeshiva. Pour commencer à construire ta vie, à te marier, à fonder une famille, à aller travailler. Ça ne veut pas dire que tu vas quitter la yeshiva totalement. Mais tu vas devoir quitter momentanément cette étude avec la structure que tu as aujourd'hui pour faire ce degré-là. Et les deux parties, c'est la volonté de Dieu. Et que tu rentres dans la yeshiva, et qu'un jour tu en sortes. Je ne peux pas rentrer dans la vie de chacun. Ken, il faut donner des exemples précis. Ken, il y a des halakhot. La halakha nous dit que quelqu'un qui vit sur la tzedaka, qu'il demande l'aumône à droite à gauche, ce n'est pas une structure normale pour un homme d'Israël. Et qu'un homme d'Israël doit travailler. Ce sont des halakhot clairs dans le Rambam. Ken? Tout à fait. Après, tu vas gérer les horaires de ta journée. C'est-à-dire que moi, je travaille, mais si je peux me permettre de travailler 2 heures, et le reste, Ken, je consacre mon temps à l'étude et à l'enseignement, eh bien, j'aurai trouvé mon équilibre avec cette donnée-là. Et quelqu'un aura besoin de plus d'horaires de travail, et ainsi de suite. Ken, on ne peut pas donner une règle générale pour tout le monde. D'une manière générale, il faut étudier, il faut continuer à étudier, mais il faut surtout traduire ton étude dans la vie. Et ne pas rester coincé dans des systèmes virtuels d'études et de mouvements de corps. Okay? Parce qu'à un moment donné, ta femme va te dire, écoute, tu es bien gentil, tu fais ça toute la journée, mais tu as des enfants, tu as une structure. Okay? Alors commence un petit peu à bouger dans d'autres styles, dans d'autres sens que comme ça. Okay? Tu te souviens jamais de tes rêves. C'est quelque chose de pas très bien. La Gemara nous dit que quelqu'un qui ne se souvient pas de ses rêves une semaine, ça veut dire que sa neshama ne donne pas assez. Il y a trop de décalage entre sa neshama intérieure et son corps extérieur. Il y a quelque chose qui bloque et donc il faut se couper tous les obstacles qui font en sorte que je ne me souviens pas de mes rêves. C'est une Gemara claire dans le traité de Brachot à la page 47 à peu près. Et bien entendu, il y a des idées, des obstacles, ou une pensée trop forte dans un sujet bien précis, donc tu focalises sur quelque chose, ce qui t'empêche de voir le reste. Comme en photo, quand tu focalises, tu fais zoom sur un degré, tout le reste de la photo est dans le flou. Mais c'est la même chose. Si peut-être tu as un sujet qui te prend trop la tête et tu focalises sur ce sujet-là, tu t'empêches toi-même de gérer le reste de tes sujets. Donc tu n'es pas assez ouvert. La fatigue peut aussi... Ça peut être un décalage. Si tu ne respectes pas les horaires de sommeil, tu es déjà en train de tricher et de trahir ta neshama et ton corps, parce que tu ne respectes pas. Encore une fois, on sait ce que Dieu nous a donné. Akadosh Baruch Hu nous a dit qu'il faut, selon nos sages, dormir 8 heures par nuit pour être en bonne santé. Si tu dors moins que 8 heures, alors il va falloir que tu rattrapes ce sommeil, et le sommeil ne se rattrapant pas, tu as des problèmes dans tous les domaines. Et au niveau de maladies qui peuvent survenir chas v'shalom plus tard, ou de problèmes au niveau de ta concentration. Tu vois bien que les gens qui ne dorment pas n'arrivent même pas à se concentrer. Ils sont toute la journée en train de faire quelque chose pendant les cours. Okay? Ou ils se regardent le nombril, ou ils se grattent le nez, ou ils se grattent l'oreille, ou ils touchent leurs chaussures, et ainsi de suite. Okay? Ça veut dire qu'il y a un manque de contrôle de soi, un manque de concentration. Et ça aussi, ça fait partie de tout ce système-là. Okay. Avant de dormir, il faut être naturel, il ne faut pas devenir fou. Le judaïsme que nous étudions est un judaïsme sain d'esprit et de corps. Okay. C'est une structure, c'est pour ça que vous êtes dans la yeshiva, à mon avis, la meilleure yeshiva au monde, okay. Qui va vous structurer si vous étudiez convenablement, si vous vous concentrez dans votre étude réelle, vous allez sortir d'ici avec des instruments pour la vie qui vont vous servir à gérer non seulement votre esprit, mais en même temps votre devenir au niveau physique réel de votre vie de tous les jours. Et ça, c'est un juif saint, c'est pas un juif qui plane, ni un juif qui est complètement dans la matière, mais un juif qui sait relier le ciel et la terre à chaque instant de sa vie. C'est-à-dire ? Donc, c'est le ratson, nous sommes dans la deuxième ligne, okay, du gros paragraphe, du Malbim, le ratson, hu apotach et yede Hashem. Regardez ce que dit le Malbim, c'est la volonté de l'homme qui ouvre les mains d'Hachem. C'est comme si en réalité les mains d'Hachem étaient attendaient ta volonté. Elles ne s'ouvrent que selon la grandeur ou la qualité ou la quantité de ta volonté. Dieu ouvre les mains pour te donner selon ce que tu veux. On peut dire en d'autres termes que tu n'auras dans ta vie que ce que tu as vraiment voulu. Sha'aliyede haratzon, et le Rav, le Malbim continue. Donc, grâce à cette volonté, yiftach yedehem, il va ouvrir les mains, la tête ou les hashpia beyadaim potrot meleot tov. Donc, c'est un désir, c'est pour ça que nous faisons cet acte, okay, c'est ce mouvement, poteach et yadecha. Tu montres que tu ouvres un réceptacle, tu te fais réceptacle pour recevoir la bonté, la volonté et le bienfait d'Akadosh Baruch Hu. Ve'az yasbia, donc tu deviens rassasié. L'echol chai besvi'a yetera. Tu vas être plus que rassasié. Ken savea. Ken, d'où vient le mot savea en hébreu? Sheva. Sheva, c'est le chiffre 7. Ça veut dire que le mot savea, c'est que toute ta vie naturelle, car la nature est relative au chiffre 7, teva, en araméen, c'est comme sheva en hébreu. Le tet et le shin s'intervertissent. Donc vous avez Teva, Savea et Sheva. Nature, rassasiement et Seth. C'est la même chose. Et quelqu'un qui est rassasié, c'est parce que justement sa nature est pleine, donc il vit convenablement, pleinement. Vezeye be'et ratson. Et ça se fait véritablement à des moments où tu veux vraiment les choses. She'aza ratson gorem p'tichat hayadaim. Alors là, quand tu veux vraiment, le ratson va faire en sorte que les mains s'ouvrent. Ta volonté ouvre toutes les portes, on va dire comme ça. On va traduire main par les portes. Si tu veux quelque chose, les portes s'ouvriront devant toi et tu recevras ce que tu as vraiment désiré. Donc, p'tichat hayadaim berov tuv ou besvia, et tu seras rassasié. Milat ratson, nose hamahama. Donc le mot ratson, c'est ici l'essentiel de notre cours. Vehu apoel apoteach yede Hashem, et c'est lui qui agit pour ouvrir les mains d'Akadosh Baruch Hu. Je vais conclure juste ce petit paragraphe en disant que la Teshuvah La teshuvah, elle commence où? Elle se réalise où? Dans la pensée de l'homme ou dans les actes de l'homme? Dans la pensée de l'homme. C'est-à-dire que la teshuvah, elle est complètement au niveau de la pensée de l'homme. Je veux ne plus fauter. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux ne plus tirer à côté de la cible, et la cible, c'est en réalité moi-même. Je veux être moi-même, je ne veux plus être hors sujet. C'est ça la teshuvah. Si vous avez cette pensée qui est saine à l'intérieur de vous, vous réfléchissez à ça durant les 2 semaines qui restent avant Rosh Hashanah et Yom HaKippurim, je veux redevenir moi-même, je veux être celui qu'Akadosh Baruch Hu a prévu que je sois. Avant de commencer à faire des gestes, vous comprenez? C'est au début, au niveau de votre désir de changement, c'est-à-dire de revenir à vous-même. Et l'année qui va commencer, c'est le début du changement. Okay? Le premier jour de l'année, ça s'appelle le début du changement. On est d'accord ou pas? Rosh Hashanah, qu'est-ce que c'est en hébreu? Rosh, qu'est-ce que ça veut dire Rosh? La tête, donc le début. Shana, qu'est-ce que ça veut dire? Changement, Shinui. Donc le premier jour de l'année ne s'appelle pas Rosh Hashanah. Il s'appelle le début, la tête du changement. Vous avez compris? C'est comme ça qu'il faut comprendre la Torah. Alors c'est vrai, ça s'appelle le début de l'année, mais l'année juive ne veut pas dire une année, c'est pas du temps. L'année juive veut dire la capacité à changer. Shana vient du mot shoné. Leishtanot, shinui. Donc Rosh Hashanah, Rosh Hashinui, le début de ma capacité à changer. Pour devenir ce que je suis, réellement. Revenir vers moi. Teshuva, retour. Retour à mon identité Israël. Ce retour se fait sur 3 plans. Retour à mon identité Israël au niveau des valeurs divines. Retour à la terre qui correspond au peuple d'Israël, donc la terre d'Israël. Et retour au temps qui correspond à ma véritable nature, c'est-à-dire les horaires qui correspondent à mon âme. Et c'est en Eretz Israël qu'on peut trouver ces horaires-là. Quel?
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous nous expliquez que c'est d'abord la pensée, okay. La joie, et après c'est l'acte. Parce que des fois, ça arrive, que ce soit grâce à l'acte, qu'on puisse faire joie. C'est-à-dire qu'on peut dire plein de fois, je prends des modèles de change, je vais faire ça, ça, ça. Okay. Mais tant qu'on n'a pas actionné le... Enfin, tant qu'on n'a pas voulu, on n'a pas fait. Alors, c'est, on peut parler de même pensée qu'il y a pendant très longtemps, mais ça ne marchera pas. Alors que quelqu'un comme ça, il dit, je ne sais pas, je vais faire ça et je vais mettre mes tests ce matin comme ça. Et après, il est mis 2 fois. Je dis, ah, bon, en fait, c'est bien ce que j'ai fait et tout. Bon, bah, alors je vais continuer et tout, et ainsi de suite. Genre.
Je comprends ta question. Le problème dans ta question, c'est que mettre les tefillin pour toi, c'est un acte religieux. C'est ça le problème. À partir du moment où tu considères que mettre les tefillin, c'est un acte religieux, alors c'est sûr, on n'est pas d'accord.
C'est-à-dire un acte religieux.
C'est-à-dire que tu fais un acte, à partir du moment où tu as mis les tefillin, tu as fait un V, j'ai mis mes tefillin. Alors que moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que ta pensée veuille que tu mettes les tefillin avec une véritable volonté et un attachement à ton peuple. Car mettre les tefillin, c'est un acte national d'abord, car tu te relies à ta nation Israël, et après seulement tu fais un acte religieux. Tu comprends la différence? Et la plupart des gens, malheureusement, traduisent les mitzvot comme des actes religieux, alors que toutes les mitzvot sont les mitzvot qui sont des actes de la nation d'Israël. Car pourquoi je fais les mitzvot? Parce que je fais partie d'abord d'un peuple. Je ne peux pas mettre les tefillin à un chat, ça ne va rien lui faire, on est d'accord. Parce qu'il ne fait pas partie du peuple. Donc qui existe avant? La notion de peuple. Donc mon appartenance au peuple prime à l'acte des mitzvot que je vais faire. La Torah est venue que parce que j'étais d'abord un peuple. Oui ou non? C'est comme ça qu'on le dit. Quand tu montes à la Torah, quelle est la bénédiction? Baruch ata Hashem. Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim, qui nous a d'abord choisi de parmi les peuples. Deuxièmement, venatan lanu et torato. Après, il nous a donné la Torah. Attention, c'est pas la Torah qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait partie du peuple d'Israël qui fait la Torah. Donc nous ne sommes pas le peuple du livre, mais c'est le livre qui est le livre du peuple. D'accord? Ça veut dire que le peuple existe, la notion de peuple existe avant la Torah. Si tu n'es pas faisant partie de ce peuple, la Torah Elle n'a rien à faire avec toi. Donc le peuple est en premier degré avant la Torah et ses mitzvot. Faire des mitzvot si tu n'es pas juif, ça ne vaut rien. C'est parce que d'abord tu appartiens au peuple que tu es soumis aux mitzvot du peuple. On est d'accord, ok? Si vous n'êtes pas d'accord, levez le doigt, dites, expliquez, explique-moi. Qu'est-ce que c'est un acte religieux? C'est que l'action va changer mon identité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que mettre les tefillin, ça va changer mon identité? Je vais devenir autre chose que ce que je suis. Non. On est d'accord. D'accord? Ça veut dire que tes actions ne changent rien à ton identité. Ton identité, elle est telle qu'elle. Elle reste. Mais si tu as pris conscience de ton identité, alors ta mitzvah va être en réalité une suite logique de ton être que tu as retrouvé. Okay? Ça veut dire que, en d'autres termes, ce ne sont pas nos actions qui vont au jardin d'Éden. C'est nous. Non, je n'ai pas dit qu'elle n'était que. J'ai dit qu'elle commençait d'abord par une prise de conscience d'un changement. Après, elle doit s'habiller, bien entendu, c'est ça toute notre Torah. J'ai dit tout à l'heure que notre but dans cette yeshiva, c'est de relier le ciel et la terre. Donc le ciel, c'est l'entendement, et la terre, c'est le passage à l'acte. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si ta teshuva commence par une prise de conscience intérieure d'un vouloir de changer, ton acte va être un acte réel. Mais si tu changes tes actes sans avoir changé ta volonté intérieure, tu as un problème. Ça veut dire que tu vas donner, par exemple, la tzedaka à un pauvre, mais en même temps, à l'intérieur de ton ventre, dans ton identité, tu ne vas même pas t'associer à sa souffrance. Donc tu auras donné la tzedaka parce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch. On a déjà gagné quelque chose, c'est bien. Ah, il a fait mais autre. Il est lié à la pensée. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, Nachon. Non, j'ai pas dit encore une fois, je répète. Non. J'ai dit, elle commence par la pensée. Elle ne commence pas par les actes. Mais elle se termine par les actes. D'accord? Attention. Ok. Parce qu'encore une fois, la teshuvah qui leur a été enseignée, c'était une teshuvah religieuse. Tu comprends? Alors que s'il était venu à ce cours-là, il aurait dit, mais ce genre de teshuvah, de prise de conscience, ça me convient. Et après, on en parlera dans un an. Tu verras que cette même personne viendra à faire les mitzvot naturellement. Pas parce que je lui ai dit au départ, fais Shabbat, mets les tefillin. Parce que pour lui, ce sont des actes. Il ne comprend pas. Mais dans cette yeshiva au Machon Meir, on travaille sur la structure de l'âme de notre peuple d'abord, de savoir qui tu es. À partir du moment où tu prends conscience de qui tu es, eh bien toutes les mitzvot, ça coule de la source après. Tu vas finir par les faire naturellement. Donc je comprends ces personnes qui malheureusement ont été attaquées, braquées par un pistolet religieux. Donc ces personnes ont peur.
Donc c'est toujours un acte. Hein.
C'est après, pas la même chose.
Et après, en lisant ce truc de Moussard et en ayant fait des bonnes actions, elle dit peut-être de faire Chouva. Okay. C'est après l'acte. Okay. D'abord l'acte et après, il y a la pensée. Il y a la pensée profonde que nous sommes vraiment, mais ça, c'est au fond de nous, on le sait okay. Après. Et parfois, il y a l'acte pour les personnes, il y a l'acte qui font.
Tu as raison, il existe aussi des actes qui attirent après eux okay, un certain changement. Mais encore une fois, tant que ce changement ne s'opère pas au niveau de l'intérieur, et que tout ce qui reste à l'extérieur sont que des actes. Donc je suis un homme qui fait des actes, mais je ne ressens rien. Est-ce que tu comprends la différence? Je ne sens rien. je vais donner de la tzedaka à un pauvre sans ressentir sa douleur de pauvre, parce que c'est un acte religieux que j'ai lu dans le Shulchan Aruch. Donc j'ai une mitzvah de rentrer ma main dans la poche, de lui donner 3 shekels. Mais j'en ai rien à faire de cet homme. Est-ce que c'est quelque chose de sain, ça? C'est maladif.
Ça vient après.
C'est pas sûr. C'est ça le problème. Si ça vient après, c'est une bénédiction. Mais ça ne vient pas toujours après. Le problème, c'est que tu deviens un homme d'acte, une machine d'action, mais en réalité, tu n'as pas de sensibilité, de prise de conscience, d'intériorité de ces choses-là. Et donc, tu ne vas pas vivre avec ton peuple, tu ne vas pas être joyeux de ses joies, tu ne vas pas être dans la peine par ses peines, parce que tu te sens complètement dissocié de cette nation d'Israël. Ça devient très très grave. Bien. Et tu peux être très religieux. Le Rambam dit dans les Halakhot, dans Mishneh Torah, qu'un homme qui fait toutes les mitzvot de la Torah, écoutez bien, mais qui les fait d'une manière extérieure, c'est-à-dire comme des actions, des actes religieux, et que son cœur, son âme, son être intérieur ne fait pas partie de la nation d'Israël, il n'a pas le droit au Olam Haba. Qui aura le droit au Olam Haba? Ses actions, mais pas lui. Vous comprenez la différence?
Ça veut dire,
c'est toi qui veux rentrer au Gan Eden ou tes mitzvot? Non, ça ne revient pas en même. Tu peux faire un acte extérieur sans y être à l'intérieur. Oui. Où était ton cœur quand tu as fait ça? C'est parce que tu es venu lire dans un livre, il faut donner 30 shekels? C'est parce que tu sens que quelqu'un peut manger avec ça?
Mieux vaut donner un shekel avec le cœur que 100, juste à ce moment-là.
J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il faut t'habituer à donner 100 avec le cœur. Ne me fais pas les extrémités, vaut mieux être riche et heureux et pauvre et malheureux. Non, on peut être riche. Heureux.
C'est pas ça que j'ai dit. Un enfant de 8-9 ans.
Ah, tu commences par un autre degré maintenant. L'enfant. L'enfant, il faut l'habituer à faire des actes. Mais en espérant qu'un jour, il comprendra le fond. Pourquoi un enfant vit en Beta Knesset, à la synagogue? Parce que tu lui jettes des bonbons. Jusqu'à quel âge il va continuer à courir après les bonbons? Tu cours, toi, après les bonbons? Non, tu as grandi. Baruch Hashem. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as compris que le bonbon n'était que un appât au départ. Alors ça, c'est éducatif. Ça, c'est autre chose. C'est bien? On est d'accord. Okay.
Mais quand, par exemple, où est-ce qu'il y a notre cœur quand on met assez d'accord?
D'accord.
Donc, imaginons, on prend une personne qui, un ami, elle lui dit, viens et tout, je fais une association, c'est très sympa et tout. Il vient avec cette personne et il voit qu'il y a des gens qui meurent de faim et tout. Quand il a affaire à manger, et là, il commence à comprendre le sens de pourquoi il met assez d'accord.
Tout à fait.
Donc, c'est l'acte qui c'est grâce à son acte qu'il a fait.
Aucun problème. J'ai dit encore une fois que c'est possible. Que certains actes, surtout quand ces actes sont suivis, accompagnés d'une compréhension, d'une prise de conscience, comme l'exemple que tu viens de donner, je n'ai pas de problème avec ça. Et encore une fois, mon but, je vais maintenant bien structurer ce que je suis en train de dire, comme ça il n'y a pas de problème. Quand est-ce que la teshuvah que nous faisons est une véritable teshuvah? Quand elle n'est pas seulement des actes extérieurs, mais qu'elle est accompagnée complètement d'une structure, d'un changement, d'une prise de conscience de mon appartenance, okay, de l'identification avec, par exemple, dans le cas de la tzedaka, avec le problème de l'autre. C'est-à-dire avec l'amour de mon prochain. Un soldat d'Israël, okay, il a l'amour de son peuple malgré lui. C'est pour ça qu'il va à l'armée et qu'il est prêt à donner sa vie dans une unité combattante alors qu'il peut faire autre chose. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui vibre quelque chose, il a envie de donner à son peuple, donc il est considéré comme un tzaddik. Il est au plus haut niveau. Ken?
Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit, en fait. Je ne crois pas qu'il y ait un acte pour un acte, je crois qu'il y a toujours un ratio derrière l'acte.
Il a fait. C'est ce que je dis. Besséder, mais lui dit que peut-être qu'il est venu par hasard.
C'est quoi l'étude?
Si on donne
un
Nachon. Il peut mettre les tefillines sans savoir ce que c'est, mais okay, il va falloir étudier. Il va falloir.
Il n'a
pas besoin de ressentir.
Il y a toujours un minimum de choses.
Nakhon. Donc on est d'accord. Okay. On peut avancer ou il y a d'autres questions? Ça va? Harizal. Donc le Harizal. Vous connaissez le Harizal? Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, Ashkenazi, Alav Shalom, qui vivait il y a 450 ans à Sfat. Un jeune homme qui est mort à 37 ans, 36 ans, donc très 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 jeune. Donc quand il a écrit tous ses livres, il les a écrits très jeunes, c'est-à-dire il a dicté en fait ses livres à son élève Rabbi Chaim Vital. Donc le Harizal, un grand 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 de la Kabbalah, dans un de ses livres, dans Shara Kavanot, nous dit Potach et Yadecha, que l'ouverture des mains, ce sont trois lettres, vous les voyez, P, Aleph et Yud. Et il dit que quand tu dis Potach et Yadecha, tu dois voir ces lettres. Et en réalité, il y a un secret dans ces lettres, dit le Harizal, mais c'est à ça que je veux arriver. Peu m'importe maintenant les Kavanot. En tout cas, c'est pas notre niveau dans ce shiur. Il dit qu'il faut penser à quoi? À unir les deux noms de Dieu. Je vous les ai écrits les deux, un à côté de l'autre. C'est ça qu'il faut faire. Alors, vous les voyez un à côté de l'autre, et après, juste après, je vous les ai mis un imbriqué dans l'autre. Vous voyez? Chaque fois, une lettre de l'un, une lettre de l'autre. Une lettre de l'un, une lettre de l'autre. Donc, le tétragramme Yudke Vavke et le Shem Adnout. Ces deux noms réunis, regardez bien, commencent par un Yud, et se termine par un Yud. On est d'accord? Eh bien, le Harizal nous dit que quand tu fais une action, et c'est ça en réalité le but de tout ce que nous étudions maintenant, il faut savoir à chaque fois faire cette combinaison de ces deux noms-là. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà de voir des lettres les unes dans les autres? Eh bien, c'est d'amener le transcendant, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu qui dépasse le monde, dans un degré immanent, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc je fais le lien entre le ciel, ce qui me dépasse, et la terre, l'endroit où je suis. Au niveau de mon être, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer à chaque fois de lier ma pensée à mes actes. Et jamais je vais trahir ma pensée par des actes qui ne sont pas adéquats. Encore avec des mots plus simples, je vais essayer dans ma vie de ne jamais faire une action qui ne fait pas partie de mon identité profonde. Je ne vais pas mentir, parce que si je mens, ça trahit mon identité profonde d'Israël, et donc je deviens, chas v'shalom, choté. Je suis en train de rater ma cible. Je détériore ma structure propre d'être un homme droit. Donc je commence à mentir avec des petits degrés, et tout doucement, les mensonges commencent à grandir et à me dévier complètement de ma structure, jusqu'au moment où je me mens complètement à moi-même, et je vis une vie qui n'est pas la mienne. Vous êtes d'accord avec ça? Donc il faut faire très attention à tous ces petits actes anodins de chaque instant, de ne jamais mentir, de ne pas dépasser avec ta bouche ce que véritablement tu penses à l'intérieur, de ne jamais faire un acte qui est en dehors de ta structure Israël, de ne pas voler, de ne pas tricher, de ne pas, ou de faire selon ce que je suis. Okay. C'est pas Hachem qui est devant nous, la Shrina est devant nous, c'est pas la même chose. La Shrina, c'est la présence divine. Okay. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est la Shrina? Qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina est devant moi? C'est le premier degré du Shulchan Aruch. Shiviti Hashem lenegdi tamid. C'est comme si j'avais le nom de Dieu, le tétragramme, okay, en face de moi, à chaque instant. Pourquoi? Maintenant qu'on vient de comprendre ça, pourquoi? Essayez d'utiliser ce que je viens de vous dire. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on me met devant ma figure toute la journée? Le modèle. Voilà le modèle. Quand tu as un puzzle, Tu veux voir le modèle pour faire le puzzle. Eh bien, ce modèle-là, c'est déjà l'image complète. Et après, toi, tu vas compléter selon l'image que tu vois. Tu peux prendre les éléments et essayer de deviner une image, mais tu ne sais pas avant de la structurer, de la finir, ce que ça va être. Eh bien, la même chose, nous, on n'a pas à chercher Dieu. Dieu nous a déjà été dévoilé au Mont Sinaï. C'est lui qui est venu vers nous. Donc, il est là, il est placé devant nous. Donc, j'ai une structure, j'ai un modèle à suivre. Tout simplement, j'ai une image à suivre. Et donc, à chaque fois, elle doit me montrer où je dois être. C'est tout. Être équivalent à moi-même. Ken.
Quand vous avez dit que vous pouvez essayer de rassembler tout le monde en les deux mondes à seul.
Ken.
Il y avait aussi dans la Amida, quand on se prosternait les quatre fois, justement, il fallait essayer d'imaginer
ces deux noms.
Ces deux noms.
À chaque fois que tu dis le nom de Dieu, tu dois penser au nom que tu vois et au nom que tu dis.
Et ça veut dire que dans la rue aussi, avant que je m'apprête à faire une action Amida, il faut que je pense à ce mot, il faut juste que je me dise il y a Hachem qui est là tout le temps.
Ça veut dire que je suis en train de faire un acte. Où je vais faire un acte qui vient de ma capacité maintenant à traduire le potentiel que je vais manifester. Je vais te le dire avec des mots simples, comme ça tu ne te prends pas la tête. Avec l'acte que je vais faire maintenant, je vais plus amener du divin sur terre. C'est ça que tu dois avoir comme pensée, c'est tout. À Kadosh Baruch Hu, il va y avoir plus de circulation divine sur terre après mon acte que ce qu'il y avait avant. C'est ça la Shrina. Donc à chaque fois que tu fais une action, là par exemple nous sommes en train d'étudier la Torah, donc nous faisons une mitzvah. Alors qu'est-ce que ça veut dire une mitzvah en hébreu? Quelle est la racine du mot mitzvah en hébreu? Tsevet. Tsevet, pas un ordre. Tsevet qui veut dire équipage. Ça veut dire je fais équipe avec Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Donc je lui permets de circuler sur terre. Ça veut dire qu'il y a une heure d'étude. Après une heure d'étude, il y a beaucoup plus d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Qu'est-ce que ça va faire ça? Eh bien, ça va faire que les gens qui marchent maintenant dans la rue, ils vont avoir des réveils, ils ne savent pas pourquoi. Les gens qui sont dans les couloirs, ils vont avoir un réveil de Teshuvah, ils ne savent pas pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a plus de divins qui circulent maintenant dans les couloirs, dans les rues de Jérusalem et dans les rues de notre terre. Vous avez compris comment ça marche?
Ken.
C'est la même chose, mais c'est en réalité, on vient d'une seule source, mais on agit et on amène du divin sur terre. Ken. Ken, il y a marqué dans la Gemara qu'un homme il doit garder Ken, sa place. Le olam ikva adam comme les tfilato. C'est-à-dire qu'il faut garder une place, la même place au moment, à l'endroit où tu pries. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux prier de temps en temps dans un autre endroit. Mais si tu gardes une place, ça veut dire Keva, c'est une structure régulière. C'est ça qu'on veut dire. Les sages nous disent, sois régulier dans ta manière de vivre. Arrête de vivre avec des hauts et des bas. Maintenant, c'est le mois des loups, je fais des pointes de machin, je deviens complètement fou. Après le mois des loups, ça va se calmer, alors je vais commencer à devenir un petit voyou. Okay. Essaye de garder une vitesse de croisière dans ton judaïsme, quelque chose de concret, du jour après jour, de régulier, de sérieux. Quel on préfère une lumière alternative, mais régulière, plutôt qu'un court-circuit, qui est une grande lumière, mais qui explose la lampe. Paf! Ça ne sert à rien de faire des courts-circuits. Court-circuit, c'est un circuit court. On préfère les longs circuits, mais réguliers. Toda Rabba.